c'est parti. Bon, ben, après avoir écouté, passé un bon moment
dans la louange,
et un bon moment de partage, on va partager maintenant autre chose. La parole. Il y a un petit mot qui est utilisé souvent, et que même on a l'habitude de dire, c'est le mot mais. Souvent on dit, mais ce n'est pas chrétien. C'est faux. C'est faux parce qu'il est utilisé beaucoup de fois dans la parole. On va commencer par lire Luc 5. Voilà. Et puis mon frère, comme il lit bien,
je vais lire.
Il va lire.
Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth.
Tibériade, c'est le même. Tibériade, c'est le même.
Ah ouais. Et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il aperçut deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde. Puis, toi et tes compagnons, vous jeterez vos filets pour pêcher. »« Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. » Mais puisque tu le demandes, je jeterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors il fit signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci avancèrent et l'ont rempli les deux barques, quoi ?
Les deux barques.
Au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi de tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Ils étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus.
Amen. Alors, ce n'est pas tout à fait la même version. Dans ma version, lui, au verset 5, il est dit, Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien répondre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ce n'est pas tout à fait la même version que nous avons. Hein. C'est la seconde, ça. Bon, c'est pas grave. Alors, on va lire aussi un deuxième dans Hébreux 11, 1 à 6.
La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr, d'être réalité qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Et on le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Donc c'est bien le verset 6 qui nous intéresse le plus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Beaucoup d'événements reportés dans la Bible, dans les évangiles, ont lieu pour le cadre, le lac de Galilée. C'est en effet dans les environs de ce lac que Jésus a le plus travaillé et prêché. Si vous vous rappelez, autour du lac, il a accompli beaucoup de miracles. Sur les eaux, Jésus a marché. Lors de la tempête, il a apaisé la tempête et le Seigneur a fait taire le vent et calmé les eaux. C'est là. Après sa résurrection au bord de lac, Jésus a voulu se montrer à ses disciples. Il leur a préparé un repas, du pain, du poisson grillé et un rayon de miel. Il est étonnant de constater que Jésus, crucifié et ressuscité à Jérusalem, a cependant donné rendez-vous à ses disciples en Galilée. Tout s'est passé à Jérusalem, mais tout, enfin la fin, s'est passé à Jérusalem, mais le rendez-vous, il est donné en Galilée. Lorsque les femmes vinrent au tombeau, les anges lui dirent dans Matthieu 28:7, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Je vais lire le reste parce que j'ai plus utilisé ma version que ta version. Hein. D'accord ? C'est un peu comme si Jésus voulait ramener ses disciples là où tout avait commencé, au bord du lac de Galilée. Là où pour la première fois, il avait entendu cette parole dans Matthieu 4:19. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. C'est à peu près la même chose.
Non, c'est pas la bonne.
Ah.
C'est
4:19. 4:19, c'est pas ça que je t'ai donné?
Non, 4:19, c'est peut-être moi.
Ah ouais, bah c'est pas grave, allez. Aujourd'hui, 2000 ans après cet événement, cette région du monde reste toujours le centre de l'actualité. On parle toujours de nos amis israéliens et palestiniens qui se tapent toujours les uns sur les autres. C'est vrai que quand on réfléchit quelque part, on se demande pourquoi que les Palestiniens sont restés là, puisque c'est la terre promise qui a été donnée. Enfin bon, des fois le Seigneur, on prie un peu trop, on prie un peu trop et on fait fléchir le Seigneur. Donc aujourd'hui, 2000 ans après, cette région du monde reste toujours le centre de l'activité, le pays d'Israël est celui où Dieu s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. De là, la bénédiction de Dieu et la grâce divine se sont répandues dans le monde jusqu'à nous, aujourd'hui au 21e siècle. Jésus s'installe dans la barque de Simon et de là va enseigner la foule. Il prêche. C'est l'enseignement de Dieu, la parole de Jésus-Christ qui va provoquer la réponse de la foi. Jésus dit à Pierre, donc on l'a lu, c'est Luc 5:4, non ? Non, c'est Luc 5:4. Il dit, voici. Si, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui répond, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ouais, ça fait déjà plusieurs fois qu'on entend le mot mais. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et pourtant, c'est probablement l'une des plus belles paroles de l'évangile. C'est la plus belle parole d'un croyant, d'un chrétien, parce que c'est la réponse de la foi. En effet, ce qu'il plaît le plus à Dieu, c'est notre foi, notre confiance. Hébreux 11:6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Bien sûr, j'ai mis entre parenthèses à Dieu. Hein. On sait bien à qui c'est impossible d'être agréable. Hein. C'est le mot charnière dans plusieurs déclarations magistrales de l'Écriture. Éphésiens 2:1-5 déclare. Alors, je vais lire le numéro 1 Et j'irai au numéro 4, le reste, c'est intéressant, mais c'est surtout que ça ne va pas directement, hein. Ça ne nous enseigne pas plus, si on dirait. Hein. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Et on va au numéro 4 qui dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il y a un « mais » dans l'Évangile. Ou non ? Nous méritons la colère de Dieu et de l'enfer à cause de notre incrédulité et de nos péchés. Bon, ça vous êtes d'accord avec moi, là, de ce côté-là. Hein ? Mais Dieu, qui est riche en amour, nous a arrêtés pour nous parler, nous a appelés et nous a pardonnés. Il est important de se poser la question, il y a-t-il un « mais » dans ma vie ? Ce « mais » de Dieu, ce mot pivot qui fait passer, qui va faire tout basculer en nous faire passer de la condamnation à la grâce ou de la mort à la vie. Un simple mot. Le « mais » se retrouve aussi dans bien d'autres passages de l'Écriture. Jésus-Christ est jugé, condamné, flagellé, crucifié, il agonise et meurt. 1 Corinthiens nous dit, dans 15-20, pardon, « mais maintenant, dit l'Écriture, Christ est ressuscité. » Mais maintenant, dit l'Écriture, Christ est ressuscité. Tout semblait perdu. Fini, terminé, le corps de Christ était inerte, il était descendu de la croix, la chair était froide, il est déposé au tombeau, mais Dieu n'a pas dit dans le dernier mot. Mais Christ est ressuscité, la mort ne pourra pas le retenir. Le monde s'enfonce de plus en plus dans le mal, les armes de guerre sont de plus en plus meurtrières. Des fois, on se demande s'ils n'utilisent que des armes mécaniques et si ce n'est pas des armes biologiques, bactériologiques qui sont un peu utilisées. D'accord ? Et tout ça, c'est de plus en plus meurtrier. Hein. L'insatisfaction des nations augmente de jour en jour. Toutefois, il y a le « mais » de l'Évangile. Le « mais » de la grâce, le « mais » de Dieu. Dans notre passage, dans notre passage de l'Écriture, c'est le mais de l'apôtre Pierre qui retient notre attention. Attention. La logique fait dire à Pierre, c'est pas possible, Seigneur, ce que tu es en train de nous dire. Il faut essayer de se mettre à la place de Pierre, hein. Il a travaillé toute la nuit. C'est pas facile de passer une nuit à travailler. Hein? Il arrive le matin, complètement fourbu. Le Seigneur vient, il commence à les enseigner un petit peu, puis il va te remettre au balai. Il va jeter le filet. Le Seigneur. Hein? Son expérience de marin, de pêcheur chevronné, l'oblige à penser, pas possible ce que Christ me dit. Mais la foi doit aller au-delà de la logique et de l'expérience. C'est pour cela que la Bible parle de la folie de la loi. Non, de la foi. Il n'y a personne qui a relevé. C'est pas vrai, ça, hein.
Tu ne nous as pas laissé le temps.
Ouais, ouais. Excuse-moi, alors. Prochaine fois, j'irai moins vite. De la folie de la prédication de la croix. Ainsi, pour ceux qui ne croient pas, les actes du chrétien semblent de la folie. Nous retrouvons la même folie dans la vie d'Abraham. Folie quand il quitte sa patrie avec sa famille pour aller dans un pays inconnu. C'est de la folie. Pourquoi fait-il cela? Parce que Dieu lui a dit, on reprend le Genèse 12:1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous avez écouté la phrase en entier? Il lui dit de partir. Il abandonne tout. Va-t'en dans le pays que je te montrerai. Mais va-t'en, les gars. Il va où, là? J'essayais de me dire, c'est pas possible. Il devait habiter au pied d'une montagne, la montagne était comme ça, il pouvait partir que comme ça. Parce que si on écoute bien là, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Faut être sacré foi là. De même, plus tard, Dieu lui promet une postérité. Sa femme est toute jeune, 90 ans. Ce que Dieu dit est donc impossible. Ce serait de la folie de croire à une telle chose. Mais Abraham croit. Pas tout de suite, il a fait une petite bêtise quand même au départ. Hein. Mais enfin, il a cru quand même. Lorsque Moïse dresse le serpent d'airain, dans Nombre 21:4, il dit « Quiconque avait été mordu par les serpents dans le désert et regardait ce serpent d'airain conserverait sa vie. » C'est quand même quelque chose d'un peu aussi, hein. Là, vous marchez dans le désert, il y a un serpent, tac, je regarde, oh, ben, j'ai rien. Je t'ai pas donné. Je t'ai donné, je vais un peu trop vite.
C'était quoi le nombre ?
Nombre 21:4.
Ah ouais.
Si, si, attends, c'est 21:4 et c'est la fin du 21:4.
Tu ne veux pas que la pomme. Attends, je mets le 5. Donc 21:4-5.
Ah, j'ai dû me tromper, excuse-moi. J'ai dû. C'est bizarre. Mais enfin, bon, je verrai ça. C'est pas grave. C'est de la folie, c'est impossible. La science dit non, la raison dit oui. L'expérience dit non. Mais la foi dit oui. Je crois, je regarde, je suis guéri. Telle est la foi qui va au-delà de la logique des hommes. Je le dis bien. Telle est la foi qui va au-delà de la logique des hommes, mais pas au-delà de la sagesse de Dieu. Il y en a un autre, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Regardons, on a Naaman qui reçoit cette parole du prophète dans 2 Rois 5-10. Je pense que je me suis pas trompé là quand même.
Non, c'est bon.
Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, tu seras pur. Ben écoutez, si vous allez dire cela à votre médecin aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va dire ? D'abord, il va un peu ridicule. Si vous insistez, il va vous mettre la camisole de force et direction l'Elzbedek. Tous les médecins s'accorderaient à dire qu'il n'y a aucune vertu thérapeutique dans les eaux du Jourdain. Et c'est vrai en plus. Et pourtant, Naaman dit oui. C'est le oui de la foi. Et le chef de l'armée du roi de Syrie se plonge 7 fois dans le Jourdain et en ressort guéri. Ben moi je dis que ce n'est pas l'eau qui l'a purifié. Hein. Ah non. C'est sa foi en Dieu, en ce Dieu qui dit, en ce Dieu qui dit, et la chose arrive. Ça a coincé là. Qui aurait pu croire que la naissance du Christ viendrait d'une jeune fille vierge ? Vous savez tous qu'il faut, il faut quand même qu'il y ait un rapport entre un homme et une femme pour qu'il y ait...
Normalement, sur la terre.
C'est pas normalement.
Sur la terre.
Même sur la terre. Et même aujourd'hui, malgré ce qu'ils disent, vous ferez ce que vous voudrez, mais vous n'arriverez jamais avec deux hommes de faire d'avoir un enfant.
Ah ben non.
Et même avec deux femmes. Parce que deux femmes, qu'est-ce que vous faire ? Vous vont faire se faire inséminer, d'accord ? Mais avec quoi ? Avec le produit d'un homme. Donc c'est toujours un homme et une femme. Malgré ce qu'ils en pensent tous, là, mais, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Dieu a créé les choses, c'est que... Elles sont tellement bien faites qu'on ne peut pas faire autrement. D'accord ? Donc voilà. Qui aurait pu croire que Christ viendrait d'une jeune fille vierge, hein? Matthieu 1, 23, et il dit, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et là, c'est pareil. Là, c'est vraiment la preuve que c'est vraiment une opération de cet esprit. Il ne peut pas être autrement. C'est de la folie. Pourtant, Dieu le dit, et je le crois. Dieu parle, et je crois. Ne faisons pas reposer notre vie sur ce que les autres pensent, sur la logique, la raison, l'expérience et le bon sens, mais sur ce que Dieu dit. Sa parole est certaine et vraie. Construire sa maison sur le roc, dans Matthieu 7, 24, je ne l'ai pas donné par contre. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est la bâtir sur ce que Dieu a dit. Le roc, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est du costaud. Qui aurait pu croire qu'un jour Dieu prendrait forme humaine? Tiens donc, en plus. Qui aurait pu croire qu'un jour Dieu prendrait forme humaine? C'est de la folie, hein? Cela dépasse notre intelligence, notre bon sens, notre logique. Notre expérience, on n'a jamais vu de telles choses. Dans tous les actes de foi du chrétien, l'incrédule y trouverait un grain de folie. Je parle de l'incrédule. Dans tous les actes des chrétiens, lui, celui-là, il a pété un petit câble. Il marche à la dérive. Le jeune chrétien qui respecte sa fiancée jusqu'au mariage est considéré comme un fou, un anormal. Alors, surtout aujourd'hui, alors là... Hein? De même, celui qui refuse de tromper le fisc. Bon, ben là, il n'est pas là, il ne peut pas en entendre parler. Hein? Etc. Revenons à Pierre. Les pêcheurs disent, mais tu es fou, Pierre. Nous avons travaillé toute la nuit. C'est le meilleur moment pour pêcher, nous n'avons rien pris. Nous connaissons tous les recoins du lac depuis des années, nous avons de l'expérience, et puis maintenant, on vient te dire de lancer le filet. Oh bah, tu es fou, Pierre. Quelque part, c'est... Si on réfléchit, si on essaye de se mettre dans la conversation qu'ils ont pu avoir dans le moment de partage qu'ils étaient là, hein. Attends, Pierre, toute la nuit, on a travaillé. Et tu veux nous faire recommencer, là ça va, non? Ben, pourtant, pas si fou, ce Pierre qui répond, Seigneur. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Première remarque, c'est l'objet de la foi. Dans cette réponse de l'apôtre Pierre, notons d'abord l'objet de la parole, de la foi. La parole de Dieu, sur ta parole. La foi ne consiste pas à croire à n'importe qui, à n'importe quoi. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Ce qu'il dit par ses prophètes, ses apôtres, son fils Jésus-Christ. La foi ne consiste pas à croire qu'il y aura peut-être bien, quand même, et éventuellement quelqu'un là-haut. Ça, c'est la foi de certains chrétiens. Qui pensent plutôt qu'il faut passer par le purgatoire. Dépenser une demi-fortune pour avoir des... quelqu'un qui prie pour toi. Parce que des fois qu'il ne prie pas assez pour toi, tu n'es pas sûr d'aller plus loin. Ce n'est pas la foi, mais une croyance. Ben oui, c'est bien ce que je viens de dire. La foi est bien plus que cela. C'est se reposer sur la parole de Dieu. Dès lors, voilà pourquoi nous ne croyons pas au purgatoire, à l'infaillibilité du pape, à l'ascension de Marie, à la réincarnation. J'arrête là parce qu'ils en ont fait que plein d'autres. Alors... J'ai pris les principaux. Et Eh bien, pourquoi on croit pas à ça? C'est vrai, après tout. On pourrait y croire. Mais pourquoi on croit pas à ça? C'est simple. Vous avez trouvé quelque chose là-dedans? Parce que la parole de Dieu n'en dit rien. Il n'y a rien sur ce que je viens d'énumérer, là. Il n'y a rien. Notre foi doit reposer sur ce que l'Écriture déclare. Ce que Dieu a dit est l'objet de notre foi. Ainsi, la parole de Dieu est le cadre qui délimite notre foi. On me dit, Seigneur, qu'une femme de 60 ans ne veut plus avoir d'enfant, que l'eau du Jourdain n'a aucune vertu thérapeutique, qu'une femme vierge ne peut donner naissance à un enfant. Mais sur ta parole, je crois. Deuxième remarque, l'obéissance à la foi. Pierre ne se contente pas de dire « Ah, Seigneur, tu dois certainement avoir raison, et je dois bien te faire confiance. » Vous savez ce qu'il a dit? Vous l'avez entendu dire ça? Ah non, non. Il pourrait dire « Ah, c'est beau ce que dit Jésus, et que ça doit être vrai. » Ça, je parle un petit peu comme un certain Johnny. « Ah que c'est beau que c'est ce que dit Jésus, ah que ça doit être vrai. » La foi de l'apôtre le conduit dans l'obéissance et Pierre lance les filets. Foi et obéissance ne peuvent être séparés. J'obéis à Jésus-Christ parce que je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ et donc je lui obéis. Chaque langue a ses caractéristiques, ses particularités. En grec, il m'a fallu un temps incroyable pour le trouver, ce mot-là, d'ailleurs. Il s'est dit « peito ». ».« Peito ». Peut être traduit par le verbe « croire » et « obéir ». Alors, « peito », on ne le trouve pas comme ça. Parce que, au départ, le mot, il faut que je vous explique un petit peu, c'est bon pour ceux qui font du grec, là, mais pas pour ceux qui font pas, c'est pas facile. Alors, le mot utilisé aujourd'hui, en grec, c'est pistéo.
Oh, c'est plus clair.
Qui vient du mot pisti, qui lui vient du mot peito. Mais pour arriver à trouver la correspondance, parce que moi je voulais cette correspondance, je voulais trouver le mot qui voulait dire... croire et obéir. Parce que dans pistéo, il n'y a que croire. Alors, toutes les formes de croire, hein, croire et machin, bien sûr. Dans pisti, c'est un peu le contraire. C'est un peu l'obéissance. Alors, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai été chercher plus loin, et c'est là que j'ai trouvé pi. Donc, pieto, qui veut dire croire et agir. Obéir. En fait, c'est agir. Pas facile. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, ces deux mots ne font qu'un. Nous, on les a... On les a séparés. On a deux mots chez nous. On a le mot croyance, on a le mot obéissance. Mais provenant du grec, qui fait un seul mot. Il veut dire la même chose. On ne peut pas séparer foi et obéissance. C'est pour ça que je voulais te chercher. On ne peut pas séparer la foi et l'obéissance. Comme nous le faisons si souvent dans notre vie. Aïe. Nous proclamons notre foi, mais peu souvent nous obéissons. Moi le premier. Hein. On peut dire qu'on a tendance à déchirer ce qui nous intéresse pas. Oui, Seigneur, je ferai ça. T'attends un petit peu, là, parce que j'ai peut-être autre chose à faire en attendant. Jamais. Bah, je vais le faire après, hein, c'est sûr. Hein. Oui, tiens, non, c'est pas vrai. La foi, c'est obéissance, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Sur ta parole, Seigneur. Il n'a pas dit, demain, je vais le faire. Non, sur ta parole, Seigneur. tout de suite. Troisième remarque, c'est la récompense à la foi. Hébreux 11:6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Paul affirme que Dieu récompense, rémunère ceux qui le cherchent, ceux qui croient en lui. Regarde la récompense de Pierre dans Luc 5, 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ça, c'est sûr que même mon ami, mon frère ici présent, il aurait bien aimé avoir tiré les poissons comme ça. Hein.
J'ai vécu ça.
Un filet qui se rompt ?
J'ai vécu la pêche miraculeuse.
Ah ouais ?
Après une étude biblique, j'ai été poussé à aller en mer.
Et t'as eu autant de poissons que ça? Parce que nous, on en a tiré du... Mais à l'époque, j'étais pas chrétien. Je vous assure que c'est arrivé, hein. Vous demandez à ma femme. On était... J'étais maître le filet. Elle était à l'Ocmarécaire. À l'époque, on campait à l'Ocmarécaire. Le soir, c'est pas grave, il m'entend. Le soir, j'étais donc maître le filet. Et le lendemain matin, d'habitude, vous savez, quand je mettais un filet de 30 mètres, simplement, on fait le filet du plaisancier, hein. Un trémaille, quoi. Et d'habitude, quand j'avais deux poissons dedans, beaucoup de crabes, qui me débouffaient ces filets, c'est tout ce qu'il y avait. Et là, chaque mètre, et puis des barres, des sols, incroyable. Le filet, toute la plage de Locmaréquerre a profité de ma pêche. Parce que j'étais tellement généreux, j'en ai donné à tout le monde. Tu te rappelles? Mais là, c'était vraiment une pêche miraculeuse. Là, c'était... Je ne peux pas dire que j'avais... ça n'a rien à voir avec ça, parce que j'ai pas prié pour aller... J'étais pas chrétien. D'accord? Merci. Donc, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Dans ce cas, elle est immédiate. Ils jettent les filets et la quantité de poissons est tellement grande que les filets rompent. Quelle récompense à la fois? Et tout de suite. C'est ce même Jésus qui a dit à Pierre et à nous-mêmes, dans Jean 5, 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la vie... » Non. Ah, merci.
C'est marqué là.
Ben, vous l'avez lu alors. Il est passé de la mort à la vie. Et pour en finir, nous allons dire, quand nous lisons cela, nous disons, Seigneur, c'est incroyable, mais sur ta parole, je lance le filet, je crois, j'obéis. C'est une symbolique, hein. Le filet, c'est une symbolique. Sur ta parole, je crois, je lance le filet et j'obéis. Amen.
Amen.
Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que je n'ai pas été trop méchant.